bienvenue à tous pour ce troisième numéro de Présidence, votre émission pour suivre la campagne présidentielle autrement, loin des sentiers rebattus des médias traditionnels. N'en doutez pas, Présidence est bien au cœur de l'actualité. En effet, après avoir consacré un numéro spécial à Arnaud Montebourg, celui-ci a étonné la sphère médiatique avec ses 17% de voix rassemblées au premier tour des primaires citoyennes. De même, la semaine qui a suivi la diffusion de notre deuxième numéro consacré à l'éducation, ce thème a été, hélas, au cœur de l'actualité avec l'immolation d'une enseignante à Béziers. Cette semaine, nous parcourons le dossier de la justice en France, alors peut-être que d'ici quelques jours, vous entendrez parler de justice dans les médias de masse, à moins que tout cela ne soit que des coïncidences. En tous les cas, ce qui n'est pas une coïncidence, c'est qu'autour de moi se trouve rassemblée toute l'équipe qui va vous faire vivre la campagne présidentielle. Tout d'abord, Amos Reichmann.
Bonjour.
Qui parcourt à sa manière l'actualité politique dans son carnet de campagne. Ensuite, Antoine Jaya.
Bonjour.
Pour rire et sourire avec son billet d'humour et d'humeur. Puis, Jérôme Bastic.
Bonjour à tous.
Qui anime avec moi l'interview centrale de Présidence. Enfin, Thibaut Sardier.
Bonjour Thomas Lacombe.
Qui viendra in extremis poser les dernières questions à notre invité. Cette semaine, c'est un ancien ministre de la Justice, des Transports et de la Fonction Publique, député et conseiller général du Rhône, qui a pris place derrière le micro de Présidence. Bonjour Dominique Perben.
Bonjour.
Avec vous, nous parlerons donc de la situation de la justice en France. Mais avant cela, pour savoir ce qui s'est passé dans la sphère politique ces derniers jours, rien de mieux que le carnet de campagne d'Amos.
C'était un soir de mai 2007. Ségolène Royal venait de perdre l'élection présidentielle. C'est à Paris, à la maison de l'Amérique latine qu'elle apparaît, resplendissante. « Je continue le combat commencé avec vous », affirme-t-elle, s'adressant aux quelques 17 millions de Français qui lui ont fait confiance. Quelques années plus tard, un certain dimanche 9 octobre, Ségolène devait récolter moins de 7% des suffrages exprimés lors des primaires citoyennes, de 17 millions à 150 000 électeurs. Les larmes de Ségolène, de la Madone blessée, la candidate à la révélation perdue. C'est en ce début de campagne l'annonciation des temps à venir, des hommes et des femmes face à leur destin, qui jouent leur vie face à la France, pour le meilleur et pour le pire. Alors, quand au soir du second tour des primaires, c'est François Hollande qui célèbre sa victoire en cette même maison de l'Amérique latine où Ségolène transformait la boue de sa défaite en or à venir, on sourit. Similitude des lieux, mais aussi des amours. D'une présidentielle l'autre, d'un amant l'autre. Largement désigné, François Hollande représentera le Parti Socialiste à l'élection présidentielle. Une mission pour réaliser ce que le PS ne sait plus faire depuis 1988, depuis près de 25 ans, gagner l'élection présidentielle. L'entre-deux-tours des primaires a vu les ralliements successifs de Baylet, de Valls, de Royal et de Montebourg derrière le favori. On connaît le goût de François Hollande pour les synthèses. Réunir le PS, il sait faire. Incarner la gauche dans la joute suprême, à voir. Gauche molle, dit Martine Aubry. Les performances du candidat Hollande seront à scruter sur la durée, pour savoir s'il sera capable de tenir jusqu'au mois de mai et d'offrir ainsi à la France indignée la jouissance tant espérée. Accroche-toi, François. Hollande candidat, ce n'est en effet pas encore Hollande président. Si une gauche considérée comme plus radicale, saluée dans les urnes lors des primaires, incarnée par Arnaud Montebourg, celui-là même qui se réclamait d'avoir sorti le PS du fort molle, a fini par se prostituer étrangement en se ralliant à la gauche molle lors de l'entre-deux-tours, il sera plus difficile au candidat Hollande de draguer les électeurs du Front de Gauche et d'Europe Écologie Les Verts. Mélenchon, qui se rêve au second tour, ne pouvait imaginer meilleur adversaire de substitution à DSK le FMI que Hollande le social-démocrate. À défaut d'une lutte des classes, c'est une redoutable lutte des gauches qui peut s'engager et dont on peut craindre qu'elle nourrisse les graines de la fatale division. Il en va de même avec les écolos qui n'ont jamais caché leur préférence pour la candidature de Martine Aubry. Une maire de Lille qu'il faudra également faire participer dignement et pleinement à la campagne présidentielle pour ne pas commettre les mêmes erreurs que lors de la campagne de 2007. Alors voilà, la gauche a son candidat. La droite, elle est contente, parce que Montebourg le bolchevique, Dixit, Jean-François Copé, a rallié François Hollande. Donc la droite, elle espère rallier les voix des centristes, qui ont peur des bolcheviques, des mondialisateurs type Montebourg le stalinien. Mais reste que la gauche, qui se réclame effectivement d'une tradition bolchevique, celle des communistes et du front de gauche, mais elle se réjouit, parce qu'elle considère que François Hollande est un centriste. Elle y voit donc l'ouverture d'un espace politique. Alors François Hollande, trop à gauche ou trop à droite? Quelque part entre les deux, là où se jouent les invraisemblables synthèses qui permettent de rêver aux victoires de demain, mais aussi là où fermentent les lendemains désenchantés du trop grand écart, forcément décevant. Un Chirac de gauche, en somme, un accompagnateur, voilà ce qui attend la France sans conviction. Des convictions, de l'espoir, des valeurs, le pays y en avait trouvé dans Sarkozy, secrétaire général de l'UMP. Travail, sécurité, autorité, liberté, l'homme fort avait trouvé ces mots. Aujourd'hui, l'UMP en est à organiser de pathétiques conventions ripostes. Aux Français érigés comme professeurs sévères, on se contentera de dénoncer les bêtises des vilains camarades. Mais que diable, on attend bien plus du parti majoritaire. C'est à croire que l'UMP s'est transformé en parti d'opposition, réagissant aux idées du PS en oubliant qu'il est en position de décision. Alors oui, Monsieur Copé, 4 Français sur 100 sont allés voter aux primaires. Donc 96 n'y sont pas allés, c'est bien. Bah oui, bravo Monsieur Copé, la prochaine fois vous serez peut-être ministre de l'Éducation. Mais Monsieur Copé, ce que les Français veulent savoir, c'est ce que vous et l'UMP allez faire avec les professeurs de mathématiques. Mais aussi avec la démocratie, mais encore avec la sécurité. Et pour l'instant, c'est silence radio. Alors, sauf à imaginer que certains ténors de l'UMP parient sur une défaite de Sarkozy en 2012 pour jouer leur carte en 2017. Il faudrait avoir l'esprit vraiment tordu et mal tourné pour imaginer pareil stratagème. Enfin, sauf à imaginer cela, on comprend mal le silence propositionnel du parti majoritaire. Sarkozy, plus seul que jamais. Mais n'est-ce pas finalement la meilleure chose qui pouvait lui arriver, afin de poursuivre son destin? Ce rapport unique qu'il s'agit de tisser avec les Français, pour qui veut un jour entrer et rester à l'Élysée. Vous savez bien, les larmes de Ségolène... C'est pour mieux rire en 2017. Ainsi va la campagne.
Merci Amos. Loin des larmes de Ségolène et du tourbillon médiatique de la campagne, prenons le temps de nous arrêter sur un sujet de fond. Après l'éducation lors de notre dernier numéro, nous nous intéressons aujourd'hui à la question de la justice en France. Et pour cela, un invité, Dominique Perben.
Dominique Perben, bonjour.
Bonjour.
Dominique Perben, vous êtes engagé en politique au sein de l'UMP, dont vous êtes l'un des membres fondateurs. Juriste de formation, diplômé de l'Université de Lyon, de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'ENA, vous avez été maire de Chalon-sur-Saône de 1983 à 2002, député de Saône-et-Loire de 1986 à 1993, et vous êtes actuellement député de Lyon à l'Assemblée nationale, où vous siégez à la Commission des lois et où vous avez récemment été nommé rapporteur du projet de loi portant sur la réforme des collectivités territoriales. En mars 2008, vous avez été candidat à la mairie de Lyon lors des élections municipales, à l'issue desquelles le maire socialiste sortant, Gérard Collomb, a été reconduit. Malgré cet échec, vous restez une figure importante de l'opposition municipale lyonnaise. Au niveau national, vous avez été également membre des gouvernements Balladur, Juppé et Villepin, où vous avez été respectivement ministre de l'Outre-mer, de la fonction publique et des transports. Mais vous avez surtout été garde des Sceaux au sein du gouvernement Raffarin de 2002 à 2005. En tant que ministre de la Justice, vous avez entre autres réformé le code civil, le code du commerce, vous avez réformé la procédure du divorce, le droit des faillites et le droit des successions et des tutelles. On connaît de vous la loi Perben II de mars 2004, qui a entre autres fait entrer dans la législation française la reconnaissance préalable de culpabilité, le fameux plaider coupable, et créé le mandat de recherche qui permet d'arrêter et de mettre en garde à vue une personne suspecte d'avoir commis ou tenté de commettre un crime, dans le but d'adapter la justice aux évolutions de la criminalité. Cette loi a aussi introduit dans le code de procédure pénale la possibilité d'un stage de citoyenneté comme peine alternative à l'incarcération sous certaines conditions. Et c'est précisément de la situation de la justice en France que nous allons parler ensemble après un rapide panorama que va nous décrire Thomas.
Sur le banc des victimes, les magistrats. Constituée partie civile, la justice allégorisée elle-même, bonnet phrygien et profil féminin, qui apporte au juge, dans sa balance légendaire, les éléments d'un malaise généralisé sous forme de chiffres. Sur le plateau de droite de la balance, deux chiffres. 7,1 milliards d'euros d'abord, c'est le budget du ministère de la Justice, qui a augmenté vu qu'il était de 4,5 milliards d'euros en 2002. Juste à côté, 485, c'est l'annonce de création d'emplois faite en mars dernier par le garde des Sceaux Michel Mercier, emplois qui s'ajoutent aux 400 vacataires déjà prévus. Mais le plateau de droite a du mal à équilibrer le poids de celui de gauche où s'amoncellent les chiffres. Plus 66%, plus 55%, deux chiffres, l'augmentation des contentieux en matière civile et en matière de délits qui sont jugés. Des moyennes également qui mettent du plomb dans l'aile de la balance. 3 procureurs en France pour 100 000 habitants, alors qu'il y en a 10 pour 100 000 habitants dans la moyenne européenne. 9 juges en France pour 20 dans la moyenne européenne. À la barre, des témoins se succèdent. Locaux dégradés, personnel débordé, 100 000 peines non appliquées en 2010. La pauvreté de la justice n'est pas un leurre, constate l'Union syndicale des magistrats dans son livre blanc 2010. À cela, la nécessité d'adapter à une crise et à une situation démographique qui évolue, la justice. Deux éléments qui semblent avoir motivé donc la réforme de la carte judiciaire engagée en 2007 et qui s'est achevée le 31 décembre 2010 par la fermeture de 17 tribunaux de grande instance. Alors dans cette affaire, avant de rendre un verdict, je me tourne vers vous, Dominique Perben. Comprenez-vous le malaise des magistrats et pensez-vous que la justice en France, vu les chiffres, manque de moyens ?
Il y a beaucoup de questions dans la question. Je comprends le malaise. Je pense qu'il n'est pas uniquement le résultat de difficultés matérielles. Je crois que la justice, qui porte le nom d'une vertu, c'est le seul ministère qui porte le nom d'une vertu, je crois que la justice est quelque chose de très difficile à rendre et à faire fonctionner comme institution dans une société tout de même très perturbé comme sont les sociétés modernes d'aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas oublier cela, puisque juger, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est... Pour essayer de répondre rapidement à votre question, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, les difficultés de la justice ne trouveront plus tellement leur réponse dans la modification des lois. J'ai été effectivement un garde des Sceaux très réformateur, aussi bien en matière civile qu'en matière pénale. Vous avez eu l'amabilité de le rappeler tout à l'heure. Je l'ai fait, par exemple, en matière pénale, dans deux directions. D'une part, pour essayer d'apporter une réponse au caractère massif de la justice pénale simple, les délits, je dirais, quotidiens, la correctionnelle. Bon, il y avait tellement de dossiers que le système était complètement embouteillé, et le plaidé coupable que vous avez évoqué, qui a été très critiqué quand je l'ai proposé, et qui aujourd'hui est pratiquement admis de tout le monde, est un des moyens pour traiter plus rapidement des choses qui sont assez simples. Puisque ça permet à l'avocat et au procureur de se mettre d'accord sur la réalité de l'infraction, sur la peine proposée, et ensuite on va devant le juge indépendant pour une validation ou une non-validation. C'est ça le plaidé coupable. J'ai souhaité aussi que nous ayons davantage de moyens, c'est Perben 2, contre la criminalité organisée. Mais aujourd'hui, la vraie question, elle est plus là, à mon avis. Et c'est inutile de continuer à changer les textes. Le problème, il est dans l'organisation matérielle, ce que j'appellerais volontiers l'administration de la justice. Et je crois collectivement, tout gouvernement confondu et avec l'ensemble des magistrats, on n'a pas passé suffisamment de temps et on n'a pas pris suffisamment de décisions importantes pour mieux faire fonctionner le système. Sans doute avec des moyens supplémentaires, mais peut-être aussi avec des organisations du travail différentes. Vous avez cité les 100 000 peines non appliquées, c'est invraisemblable. C'est un truc de dingue, on marche sur la tête. Bon, il est évident qu'à tout point de vue, c'est du gâchis. Et il faut absolument, par exemple, améliorer le taux d'exécution des peines.
À côté de ce problème de moyens et d'organisation, un certain nombre des magistrats pointent aussi du doigt le manque d'indépendance de la justice et les dysfonctionnements du parquet. Pensez-vous qu'il faille le réformer, monsieur le ministre ?
C'est un sujet très compliqué sur lequel moi je suis assez en décalage par rapport à ce discours ambiant que vous venez d'expliciter. D'abord, il y a une chose qu'il faut redire pour ceux qui nous écoutent, c'est que les juges qui jugent, ceux qui prennent les décisions, les condamnations, etc., sont indépendants, et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas débat, personne ne conteste l'indépendance des juges. Même si on peut toujours se poser dans un établissement comme le vôtre, je pense que on peut se poser des questions de nature philosophique. Qu'est-ce qu'être indépendant ? C'est une question difficile. On peut être indépendant par rapport à une autre institution, par rapport à un autre pouvoir.
Mais pouvoirs.
Il faut aussi être indépendant par rapport à soi-même, par rapport aux influences dont on peut être, auxquelles on peut être soumis. L'indépendance du juge, c'est pas uniquement une indépendance par rapport aux autres pouvoirs. Et je pense qu'il faut aussi avoir une réflexion sur le fondement même de l'indépendance. Mais passons là-dessus, même si c'est, je pense, très intéressant. intéressant. S'agissant du parquet, qu'est-ce qui fait débat ? Deux choses. D'une part, les conditions de nomination des procureurs de la République et d'autre part, la possibilité pour le ministre de la Justice de donner des instructions aux procureurs de la République. Sur le premier point, quelle est ma position ? Moi, j'étais partisan, et je l'ai exercé en tant que ministre, d'une certaine liberté de choix confiée au ministre, c'est-à-dire la possibilité pour le ministre de ne pas suivre les avis du Conseil supérieur de la magistrature. Personnellement, je l'ai pratiqué. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, lorsque j'étais ministre garde des Sceaux, de ne pas suivre les avis du Conseil supérieur de la magistrature pour la nomination du procureur de la République. Pour autant, je pense que ce débat aujourd'hui, il est pratiquement dépassé. D'une façon ou d'une autre, la future législature, après 2012, probablement entérinera le fait que, comme les juges indépendants, les procureurs de la République devront être nommés avec avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que c'est pratiquement indispensable, ce qui sera un changement très important. Par contre, s'agissant des instructions que le ministre peut donner au procureur de la République, là je pense que ce serait une grave erreur d'interdire au ministre de donner des instructions au parquet. Je rappelle qu'il s'agit uniquement d'instructions de poursuivre. Je vous donnerai un seul exemple que j'ai vécu. En 2003, nous avons connu dans notre pays une recrudescence extrêmement forte des attentats antisémites. Nous en avons été extrêmement émus avec le ministre de l'Intérieur qui était Nicolas Sarkozy et avec le président de la République Jacques Chirac. Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises, nous avons réfléchi avec les représentants de la communauté juive, etc. Et j'ai mis en œuvre, avec l'accord explicite du président de la République et son soutien, une politique extrêmement dure de poursuite contre tous ces gestes antisémites. Avec des instructions personnelles et ponctuelles de poursuite, j'ai donné des instructions de poursuite, avec des instructions que j'ai données de faire appel lorsque les condamnations étaient à mes yeux insuffisantes. Et en 3 ans, nous avons fait reculer le phénomène. Donc je pense que c'est important. Et je peux vous dire que j'en discute aujourd'hui avec des gens qui entourent François Hollande, s'il arrivait que la majorité change dans ce pays, ce qui peut arriver dans une démocratie. Et même auprès d'eux, je leur dis, si vous êtes amené à exercer des responsabilités, je pense en particulier André Valigny, que vous connaissez peut-être, qui n'est pas très loin d'ici, qui est un peu mon alter ego à la commission des lois, côté socialiste, et que je connais depuis longtemps, et je lui dis, si vous êtes amené à avoir des responsabilités politiques, ne revenez pas sur la possibilité pour le garde des Sceaux de donner des instructions, il en va de l'équilibre démocratique de nos institutions républicaines. Pour résumer, oui, il faudra changer le mode de nomination. Non, il faut maintenir la possibilité pour le ministre de donner des instructions.
D'accord. Sinon, dans l'actualité de ces derniers mois, 2 présidents de la République sont dans la ligne de mire de la justice. Un ancien président, Jacques Chirac, dans l'affaire dite des emplois présumés fictifs de la ville de Paris, et qui ne comparaîtra pas pour motif médical. Et d'autre part, l'actuel président, cité principalement dans l'affaire Karachi. Les partis d'opposition jugent qu'il faut revenir sur la responsabilité du président devant les tribunaux, voire, selon certains, abolir l'immunité présidentielle.
Une petite remarque. Dans un cas, celui de Jacques Chirac, il y a une procédure qui est arrivé au bout, il en est maintenant dans la phase du jugement. Là-dessus, moi, j'ai rien à dire. Attendons la décision du tribunal. S'agissant de la mise en cause du président Sarkozy, cette mise en cause, je me permets de le dire, ne repose sur aucun fait établi. La mise en cause personnelle de Nicolas Sarkozy dans cette affaire. Alors, pour ce qui est de l'immunité pénale du président, pour des questions qui touchent à des actes personnels non liés à sa fonction, moi, je dis simplement attention. Si on supprime l'immunité pénale du président de la République, on rend possible des manipulations à caractère judiciaire pour affaiblir politiquement le président de la République en exercice. Et faisons bien attention à ce qu'on fait. On avait travaillé entre 2003 et 2005 sur un statut pénal du président de la République. Nous avions rédigé un projet de loi. Il ne me satisfaisait pas complètement parce que je considérais que ce projet risquait d'entraîner une forme de responsabilité du président de la République devant le Parlement, ce qui, à mon avis, serait une deuxième erreur. Il y a un côté grotesque à juger aujourd'hui le président Chirac pour des faits qui remontent aux années 90.
On pouvait pas le faire avant.
Bon, parce qu'on pouvait pas le faire avant, oui. Je suis d'accord avec vous. Et on aboutit à ce que j'appelle cette justice archéologique qui finit par devenir surréaliste. Alors, il faut peut-être aussi que les procédures aillent plus vite, parce que les faits incriminés éliminé sont bien antérieurs à son élection comme président de la République et les instructions pourraient peut-être aller un petit peu plus vite dans ce pays.
Sinon, le gouvernement actuel entend adapter la justice aux évolutions de la société avec la création de citoyens assesseurs, à savoir la participation de simples citoyens au jugement des affaires correctionnelles et aux décisions de libération conditionnelle. Y êtes-vous favorable ?
Écoutez, j'ai voté le texte, je pense qu'il ne changera pas grand-chose. Je pense que c'est pas franchement une révolution. Ça existe, vous le savez, pour les assises, c'est-à-dire pour juger des crimes, ce sont les citoyens français qui le font par tirage au sort. Et j'avais eu l'occasion, comme ministre de la Justice, de discuter avec d'anciens jurés. Et ils m'avaient tous fait part du très grand intérêt qu'ils avaient porté à cette responsabilité terrible de juger les autres. Mais ils en gardaient tous plutôt un bon souvenir, un souvenir positif, disons. S'agissant d'ajouter des assesseurs dans les tribunaux correctionnels, pourquoi pas ? Je pense que ça peut mettre un peu de bon sens dans le débat. Ça aura sûrement l'effet plutôt de ralentir les procédures, mais bon, si on a une meilleure justice, c'est pas grave si elle est plus lente. Mais je pense que sur le contenu, certains qui avaient présenté cette réforme comme l'assurance que les peines seraient plus lourdes, que les, je pense personnellement qu'ils se trompent. Je pense que les assesseurs citoyens seront probablement beaucoup plus sensibles aux arguments des avocats que des juges professionnels.
Alors le président de l'Union syndicale des magistrats, Christophe Régnard, dit que l'état des prisons est la honte de la République, qu'il y a 80 000 places en prison pour davantage de détenus. Elles sont donc clairement surpeuplées. Selon vous, que doit faire l'État ? Est-ce qu'il doit construire de nouvelles prisons ou plutôt envisager de nouvelles formes d'exécution des peines comme l'assignation à domicile, le port du bracelet électronique ou d'autres ?
Il faut faire les deux. Personnellement, lorsque j'avais été nommé en 2002, j'étais confronté à une situation encore plus difficile que celle d'aujourd'hui. Et j'avais simultanément lancé un programme 13 000 places de prison qui est en train de s'achever, heureusement, qu'on a ces 13 000 places supplémentaires. Et puis deuxièmement, il faut aussi développer des substitutions à la prison. Et le bracelet électronique, c'est moi qui l'ai vraiment généralisé, et c'est une forme de réponse. Il n'y a pas que celle-là. Il y a les travaux d'intérêt général, il y a, pour ce qui est des mineurs, toutes les formules qu'on a essayé de développer depuis les années 2000 avec les centres éducatifs fermés ou les centres éducatifs renforcés. Enfin, je pense qu'il y a effectivement nécessité de s'interroger sur quelle peine pour quel délit et se reposer, j'allais dire, continuellement la question. La prison n'est pas nécessairement la réponse la mieux adaptée.
Pour terminer cet entretien, in extremis, voici les questions de Thibaut Sardier.
Alors pour ces dernières minutes d'interview, monsieur le ministre, je voudrais évoquer avec vous deux sujets, à commencer par la répartition des institutions judiciaires sur le territoire français et les liens entre ces institutions et les villes qui les accueillent. Et pour ce faire, je voudrais remonter au début du quinquennat, lors de la mise en place de la réforme Dati. Le monde judiciaire et la presse s'inquiétaient des mesures envisagées, comme le Figaro qui indiquait au début de l'été 2007 que la plupart des barreaux de plusieurs petites villes seraient amenés à disparaître avec la suppression des tribunaux. Et le journal citait par exemple Agen, Marmande, Alès, Briey, Bourges, Châteauroux, Vichy, Moulins, Montluçon, Thionville, Metz, Sarreguemines. Il s'agit donc plutôt de petites villes, et souvent donc dans des lieux où la densité de population est faible. Par conséquent, j'aimerais savoir quelle place prend dans la réflexion d'un ministre de la Justice la question des institutions judiciaires comme employeurs dans la ville et donc comme pourvoyeurs d'emplois.
Oui, enfin, chacun son job, si je puis dire, mais enfin, c'est pas a priori au ministre de la Justice d'être en charge principalement de la question de l'emploi, mais je comprends bien sûr votre question. Moi, j'avais été très réservé, à l'époque où j'étais garde des Sceaux, sur l'idée d'une réforme substantielle de la carte judiciaire. Pour être tout à fait franc, il y a maintenant prescription, comme on dit en matière judiciaire. Le Premier ministre de l'époque m'avait demandé de lancer une telle réforme et j'avais refusé de le faire. Ce qui est pas bien pour un ministre, bien entendu, mais j'avoue, vous voyez, donc j'espère que je serai pardonné un jour. J'avais refusé de le faire parce que à ce moment-là, j'avais lancé, à la demande de Jacques Chirac, ce qu'on a appelé les juges de proximité, qui malheureusement sont remis en cause aujourd'hui par le gouvernement actuel, ce que je regrette. Et je ne me voyais pas mener à la fois la réforme des juges de proximité, avec tout ce que ça signifiait de proximité, et en même temps fermer des tribunaux dans les départements. Et donc c'est la raison pour laquelle je n'avais pas engagé cette réforme. Je pense que c'est une réforme qui, dans l'immédiat, est plutôt coûteuse et qui fait pas faire beaucoup d'économies. économie, parce qu'en réalité, vous fermez des locaux dans des villes où personne ne va venir vous les acheter, et vous êtes obligé d'ouvrir des bureaux supplémentaires dans des villes où, en général, le mètre carré est plus cher. Donc, voilà. Mais une réforme est souvent coûteuse au début pour faire des économies ensuite.
Est-ce qu'il faut s'adapter ?
Vous voyez mon enthousiasme pour cette réforme.
Je le vois bien. Est-ce qu'il faut s'adapter à l'évolution démographique du pays, comme ça a pu être une justification ?
La justice est faite pour les hommes et les femmes de ce pays, donc il est évident qu'il faut que l'institution judiciaire, sur le plan de son implantation, suive les femmes et les hommes de ce pays. Nous sommes plus dans une France rurale à 80% et urbaine à 20% comme au 19e siècle, c'est l'inverse, on est 80% urbains et 20% ruraux. Donc il faut bien évoluer. Pour autant, je pense que c'est pas tout toujours une économie de faire des kilomètres aux justiciables, à l'avocat, voire aux collaborateurs des juges. Donc il y a un équilibre à trouver. Je pense là, il y a eu une réforme de fait. Je pense qu'il faut déjà la digérer avant d'en envisager d'autres.
Si je comprends bien, vous n'êtes pas précisément d'accord avec Rachida Dati qui disait au moment de la réforme, la proximité de la justice, ce n'est pas forcément le fait d'être jugé à côté de chez soi.
Oui, elle a un peu raison aussi, mais allons pas trop loin, parce que il y a quand même beaucoup de choses simples et assez répétitives qui sont soumises aux tribunaux. Un tribunal correctionnel, c'est pas que des affaires gigantesques, c'est pas toujours l'affaire de Karachi, c'est souvent le vol de mobylette, une petite violence de quartier, et franchement, faire 40 kilomètres à quelqu'un pour demander justice pour des choses aussi simples que ça, c'est parfois un peu excessif.
Et donc le deuxième thème, rapidement, Thomas le disait au début de l'émission, vous êtes rapporteur du projet de loi portant sur la réforme des collectivités territoriales. Alors quelles en sont les grandes lignes ?
Oh là là, il faudrait une heure là, si vous
voulez. Je le sais bien.
On peut reprendre rendez-vous. Bon, les grandes lignes, c'est accélérer l'intercommunalité, c'est-à-dire le regroupement des communes dans un certain nombre de structures de coopération intercommunale, et puis engager le processus de fusion entre départements et régions à travers la fusion des élus et la création des conseillers territoriaux. Voilà les deux grands éléments de la réforme. Je pense que une des raisons de nos surcoûts de dépenses publiques viennent beaucoup d'une organisation beaucoup trop complexe sur le territoire, qui provoque aussi une forme d'irresponsabilité des élus par rapport aux enjeux, parce que les choses ne sont pas lisibles.
Donc il s'agit de boucler la création des EPCI qui est en train de se réaliser.
Qui est en train de se faire, malgré les criailleries de beaucoup, oui.
Et de faire sauter le département ?
Pas sauter le département, mais faire une première étape par la fusion des élus vers ce que j'appelle de mes voeux à terme, c'est-à-dire la fusion région-département, de manière à ce que demain, le schéma que j'ai en tête, mais c'est une position très personnelle, ce serait d'avoir un conseil politique qui serait régional, et puis les départements qui deviendraient au fond des structures administratives déconcentrées de la région.
Eh bien, mon temps est écoulé. Merci, monsieur le ministre. Et Thomas, je te rends la parole in extremis.
Merci, Thibault. Et surtout, merci à vous, Dominique Perben, d'avoir répondu à nos questions. Pour approfondir le sujet, plusieurs livres. Le livre blanc 2010, rédigé par l'Union syndicale des magistrats et dont le sous-titre est « L'état de la justice en France ». Et apparaître, au début du mois de janvier 2012, le très attendu « La justice sous Sarkozy » de Vincent Kivi. Si Présidence prend le temps d'évoquer des sujets de fond, comme nous venons de le faire sur la justice avec Dominique Perben, Présidence est là également pour pointer du doigt tous les coups bas, manipulations, contre-vérités, polémiques et petits travers de nos hommes et femmes politiques. C'est la rubrique Alerte Rouge. Le Front National fournisseur de viande halal. Cette idée a l'air absurde quand on sait que depuis l'ouverture du Quick Halal de Roubaix, Marine Le Pen en a fait son cheval de bataille favori, avec la sortie de la zone euro, la fermeture des frontières, la peine de mort, la dénonciation du tous pourri. Oui, un de ses nombreux chevaux de bataille démagogiques, dénonçant la généralisation du halal comme étant un concept marketing sectaire. Alors le Front National, fournisseur de viande halal, cela s'apparenterait plus à un cauchemar, à en faire avaler au vieux Jean-Marie sa prothèse oculaire. Et pourtant, il s'agit bien d'une réalité, puisque le conseiller régional Front National du Nord-Pas-de-Calais, Paul Lamoitié, est dans le civil le plus gros fournisseur de volaille halal de la région. Comme quoi, le discours bleu marine n'est qu'un vernis populiste qui souffre quelques petits arrangements. Arnaud Montebourg qui appelle à voter François Hollande au second tour des primaires citoyennes, pas directement mais à titre personnel. Cela en a surpris, voire déçu certains, comme Jean-Luc Mélenchon qui notait amèrement « Ce matin, Arnaud Montebourg a choisi la couleur de sa cravate, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ?» Arnaud Montebourg a eu raison, changer de cravate, c'est encore plus rapide que retourner sa veste. Arnaud Montebourg toujours, et cette phrase surréaliste que vous avez dû entendre, « De la vieille chenille vient de sortir un beau papillon ». Je proposerais bien une minute de recueillement pour méditer cette fulgurance poétique de notre socialiste au changement de cravate opportun, mais on me fait signe en régie que ce n'est pas très radiophonique. « De la vieille chenille vient de sortir un beau papillon ». Mais de qui parle-t-il ? Pas de Martine Aubry qui, quoi qu'elle fasse, a toujours l'apparence d'une vieille chenille. Pas de François Hollande non plus, sinon il aurait plutôt dit « Du gros cocon vient de sortir un papillon liposucé ». À l'UMP aussi, on peut se targuer d'avoir des poètes en herbe, mais des poètes malins, qui, cette bonne guerre, reprennent les jolies petites piques que se sont cordialement lancées leurs camarades socialistes. C'est le cas du député Marc-Philippe Daubresse qui déclarait « Avec un programme aussi flou et mou, où il y a des tas de loups et des tas de trous, la France va dans les choux. » Finissons par cette phrase d'Eva Joly qui montre qu'elle connaît ses classiques de l'humour français et notamment Francis Blanche. « Face au monde qui bouge, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. » Président, c'est également rire, car comme le disait Alphonse Allais, le rire est à l'homme ce que la bière est à la pression. Et justement, dans notre cave, nous avons une grande cuvée, le billet d'humeur et d'humour d'Antoine Jaya.
Mais... qui a la pression.
Alors ça, c'était très bien, mais je te sens un peu tendu, Antoine. Ça va ?
Bah, pour tout vous dire, j'ai peur, Tu sais, je me demande s'il faut vraiment faire cette émission, en fait, ou la continuer, parce que, tu comprends, la semaine dernière, nous avons parlé d'éducation avec Philippe Mérieux, et depuis, un professeur de mathématiques s'est suicidé devant ses élèves en s'immolant par le feu, et un professeur de SVT, qui, au dire de ses élèves, soutenait régulièrement que les vampires et que les extraterrestres existaient, vive la science, a tué à coups de sabre des fonctionnaires de police qui lui avaient refusé, sans doute à raison, un permis de port d'armes à feu. Alors, coïncidence? Je ne crois pas. Je te le demande, Thomas, est-ce que tu veux vraiment que notre jeune émission ait d'autres tragiques absurdités sur la conscience ? Parce qu'on a parlé de justice aujourd'hui. Est-ce que tu veux que les avocats du barreau de Lyon, après s'être subitement mis à organiser des projections publiques d'X-Files et de la nuit des vampires, se livrent à des sabbats et à des suicides collectifs ? Non, 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 moi je veux pas être mêlé à ça. Non, je vous entends d'ici, chers auditeurs. Je ne suis pas paranoïaque. Je m'inquiète. Non mais c'est légitime. Depuis qu'on fait une émission politique, les actualités deviennent folles. La gauche est majoritaire au Sénat. Au Sénat ! Non mais du jamais vu depuis la création de la 5ème République. Et le candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle est François Hollande. François Hollande ! Mais franchement, qui aurait pu croire que ce petit à lunettes, ce rondouillard jovial au jour rose, ce mix entre un lutin du Père Noël et un premier de la classe, deviendrait le mince et grave porte-parole du socialisme du 21ème siècle ? Ce nouveau Léon Blum, ce Jean Jaurès contemporain, bref... un symbole de la lutte des opprimés contre les oppresseurs, un horizon d'espoir des pauvres contre les riches, et une nouvelle étape dans l'histoire de la France, pays des droits de l'homme. Non, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il était un symbole de vide, un horizon bouché, et une nouvelle étape dans la dégringolade du PS. Hein. Et sous l'unanimité des colibés, il recevait le doux sobriquet de Flamby, à cause de son goût pour les synthèses molles, et certainement pas pour d'autres raisons. Quelle sublime reconversion, mais vous rendez-vous compte ? C'est la première fois qu'un yaourt est si prêt à se retrouver en photo dans toutes les mairies de France. Vous imaginez, s'il est élu, qu'une déferlante de joie populaire s'empare du pays et que des ouvriers occupent spontanément l'usine comme en 36, retrouvant confiance dans l'avenir, levant le front devant les patrons? Vous imaginez, 30 ans après son élection, des retraités témoigner et dire, lors des rétrospectives, des larmes prennent les yeux? Oui, oui, j'y étais ce soir à la rue de Solferino. Quand le monde est devenu plus juste, quand le peuple a retrouvé sa parole et sa fierté. Bon, vous l'aurez compris, moi personnellement, je n'imagine pas. Mais Flamby ou Léon Blum, gauche dure, gauche molle ou gauche vide, triomphe des conseillers en communication ou des idées, l'histoire tranchera. Mais attention à celui qui veut trop faire croire qu'il a changé, le candidat de la rupture s'en souvient.
Merci beaucoup Antoine. Notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Pour réagir et suivre l'actualité de votre émission préférée, vous pouvez ajouter Présidence parmi vos amis sur Facebook. Sinon, je vous donne rendez-vous très vite pour un numéro de Présidence avec Najat Vallaud-Belkacem comme invité. D'ici là, je vous laisse en bonne compagnie avec toutes les autres émissions Transistor. Et surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.